Chapitre 33. Le directeur pénitentiaire a appuyé la demande de permission de Juna Lina lors de la réunion du conseil. 36 heures lui ont été accordées. Juna arrive au bout du couloir souterrain où de grands schtroumpfs sont peints sur le béton rugueux du mur. Le gardien devant lui attend quelques secondes avant de lever la main et d'ouvrir la porte. Il pénètre dans le sas du carrefour, attend le cliquetis de la serrure, avance vers une autre porte et doivent patienter encore le temps que le poste de garde approuve leur passage vers la section suivante. Exactement comme Juna l'avait prédit, Salim Rajen a fini par comprendre que sa permission était la seule chance qu'il aurait de faire passer un message avant le mercredi. Il n'a donné qu'un numéro de téléphone et un nom, mais il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un code pour déclencher une attaque. Après avoir récupéré ses affaires personnelles déposées à son arrivée, à ce qu'on appelle ici « la porte du paradis », un gardien accompagne Juna à la sortie. Lors de son procès, 2 ans plus tôt, son costume lui allait comme un gant. Mais depuis, Juna a consacré 4 heures par jour à la musculation et aujourd'hui sa veste le serre aux épaules. La serrure bourdonne, il ouvre la porte et sort, laissant le haut mur derrière lui. Une douleur familière fuse derrière son œil gauche quand il commence à traverser la cour. La clôture électrique surmontée de barbelés constitue la dernière étape avant la liberté. De hauts mâts dotés de projecteurs se dressent devant lui. Le treillis blanc des pylônes brille contre un ciel gris acier. Il résiste à la tentation de marcher plus vite. Des souvenirs de son enfance lui reviennent. Petit garçon, il suivait son père dans la forêt pour aller pêcher l'ombre le chevalier à Vilmanstrand, dans le sud de la Carélie. Quand les premiers scintillements du lac apparaissent entre les troncs et la végétation, il devenait impatient et voulait courir, mais se forçait à se retenir. « Il faut toujours approcher l'eau en douceur », lui avait expliqué son père. La lourde grille coulisse dans un grincement métallique. Le soleil surgit de derrière un nuage. Il lève les yeux. Pour la première fois depuis 2 ans, son horizon s'élargit. Son champ de vision est infini, par-dessus les champs, la route et la forêt. Quand Juna arrive sur le parking du complexe pénitentiaire et entend la grille se refermer, il a l'impression d'inspirer une grande goulée d'air, de boire de l'eau, de croiser le regard complice de son père. Le souvenir de la partie de pêche revient papillonner dans son esprit. Leur lente progression jusqu'à la rive, l'instant où il s'apercevait que le lac pullulait d'ombre, la surface lisse était marquée d'innombrables ronds, comme s'il pleuvait. Cette immense sensation de liberté le prend de court. Quelque chose jaillit dans sa poitrine et il pourrait s'arrêter et pleurer, mais il continue d'avancer, sans un regard en arrière. Pendant la marche de 700 mètres jusqu'à l'arrêt de bus, ses muscles commencent à se détendre. Il est en train de redevenir lui-même. Au loin, sur la route, il voit la poussière soulevée par le bus qui approche. Selon le plan de permission validé par l'administration, il doit y monter, aller à Örebro, puis prendre le train pour Stockholm. Il sait d'ores et déjà qu'il ne prendra pas le train. Dans 45 minutes, il a rendez-vous avec un intermédiaire de la CEPO dans le parking souterrain du centre commercial Vågen, à Örebro. Il vérifie l'heure avant de se renverser sur son siège, un petit sourire aux lèvres. Il est heureux d'avoir enfin retrouvé la sobre montre Omega que son père lui a laissée en héritage. Sa mère ne l'a jamais vendue, alors qu'ils auraient eu besoin de cet argent tant de fois. Le vent souffle et le soleil a disparu quand Juna descend du bus et se dirige vers le centre commercial. Bien qu'il n'ait que 5 minutes devant lui, il s'arrête à une friterie pourvue d'un store rouge et de quelques parasols jaunâtres et commande un pepper cheese bacon meal avec des frites crinkle dorées et bien croustillantes. « Et comme boisson ?» demande le vendeur en posant le steak haché sur la plancha. « Un Fanta exotique, s'il vous plaît, » répond Juna. Il prend la canette qu'on lui tend, la glisse dans sa poche, se place près du panneau publicitaire pour des crèmes glacées et déguste lentement son hamburger. Dans le parking, sous le centre commercial, Un homme en jean et doudoune consulte son téléphone portable à côté d'une BMW noire. « Tu as 20 minutes de retard, dit-il, sur un ton renfrogné quand Juna s'avance pour lui serrer la main. « Je me suis arrêté pour t'acheter à boire, répond Juna en lui donnant le soda. Agréablement surpris, l'homme le remercie et lui ouvre la portière. Sur la banquette arrière, un téléphone portable basique, muni d'une carte prépayée, est posé sur 3 enveloppes épaisses transmises par Saga Bauer. Il s'agit du rapport technique complet de la police scientifique sur l'assassinat du ministre des Affaires étrangères. Tout ce que Juna a demandé se trouve dans les enveloppes. Le procès-verbal de l'enquête préliminaire, le rapport médico-légal de l'examen extérieur du corps, les résultats de laboratoire et les retranscriptions de tous les interrogatoires du témoin. Il passe devant la gare ferroviaire et s'engage sur l'autoroute en direction de Stockholm. Juna reste à l'arrière pour lire les documents qui retracent le parcours de Salim Rajen, la fuite d'Afghanistan, l'asile accordé par la Suède, puis son implication dans des réseaux criminels. À part sa femme, son seul proche dans le pays est son frère, Absalon. Après avoir enquêté sur lui, la CEPO est certaine qu'ils n'ont eu aucun contact depuis 8 ans. D'après la correspondance que les enquêteurs ont trouvée, Absalon a coupé les ponts avec Salim après l'avoir vu stocker du haschich pour le compte d'un dealer. Juna ouvre le dossier de photographie prise dans la villa du ministre lorsque le téléphone sonne.
« Tu as pu établir le contact avec Rajen ?» demande Saga Bauer.
« Oui, il m'a donné une mission, mais je ne sais pas encore à quoi ça nous mènera, » lui répond Juna. « Il m'a demandé d'aller chez sa femme, de lui dire d'appeler un numéro de téléphone et de demander à Mira. »«
D'accord, c'est du bon boulot,
tu as assuré, » le félicite Saga.
« Ça va être du lourd l'intervention ce soir, non ?» demande Juna en regardant les tirages sur papier brillant. Il voit des flaques de sang, des éclaboussures dans la cuisine, un pot de fleurs renversé, le corps de William Fox sous différents angles, le torse sanguinolent, les mains et les orteils tordus et jaunâtres.
« Je vais parler à Yanos, c'est lui qui dirige les opérations, » dit Saga. « Il est très bien, mais je pense quand même que ce serait difficile de te remplacer dans la première phase. »«
Je ne veux pas être remplacé. »«
Tu penses que tu sauras te débrouiller ?» demande-t-elle sur un ton sérieux.
« Me débrouiller, tu rigoles ?» J'ai le feu sacré qui revient. Il entend un rire de satisfaction dans le téléphone.
Tu as conscience que tu as été absent pendant 2 ans et que notre criminel est extrêmement efficace.
Oui.
Tu as peut-être lu le rapport de la reconstitution du crime.
Il sait ce qu'il fait, mais il y a aussi un autre aspect.
Je le sens. Un truc pas net.
Comme quoi ? À quoi tu penses ?